Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter un petit peu des matériaux biodégradables, mais ce sont des polymères en fait, qui peuvent être utilisés en agriculture d'une manière générale, mais peut-être plus difficilement utilisés en foresterie, parce que les temps de biodégradation de ces matériaux sont relativement rapides, alors que vous recherchez, je pense, souvent des temps de biodégradation plus longs, de l'ordre de 2 ans ou de 3 ans, et avec ce type de matériaux-là, jusqu'à présent, c'est pas vraiment faisable. Alors, moi, je suis donc président du Cerbio. Le Cerbio, c'est une association d'universitaires et d'industriels. Il y a environ, dans l'association, 50% d'universitaires et 50% d'industriels. Cerbio, ça signifie Service études recherche polymères biodégradables. Donc, c'est une association d'aide aux PME et aux PMI dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin aux matériaux biodégradables. On va essayer, les matériaux biodégradables, c'est relativement complexe. Et pour essayer d'y voir plus clair, et on va essayer de les classer par des entrées avec des moyens d'entrée différents. Alors, un premier moyen de distinguer les matériaux biodégradables, c'est de les classer en fonction de la quantité d'énergie nécessaire à leur fabrication. Vous avez un exemple là. Polymère haute densité qui demande 80 mégajoules par kilo pour être fabriqué, alors qu'un PLA, qui est de l'acide polylactique, ne demande que 57 mégajoules pour être fabriqué. C'est un mode de classement et un mode de distinction des différents biomatériaux. Un deuxième moyen, c'est de les classer en fonction du type principal de ressources utilisées pour la fabrication de ces matériaux biodégradables. Alors, vous avez les matériaux biodégradables dont la ressource principale est renouvelable à court ou moyen terme. Et puis, vous avez les matériaux biodégradables dont la ressource principale n'est pas renouvelable à court ou moyen terme. Ce sont essentiellement les produits d'origine pétrolière. Alors, vous avez là-dedans l'agar agar, les alginates. On voit difficilement, je crois que c'est les amidons, là. Hein. Alors, j'ai mis en rouge les deux matériaux qui sont très importants en matière d'agriculture, ce sont les amidons et les PLA, qui sont très fortement utilisés. Et alors, dans les matériaux qui sont essentiellement issus du pétrole, vous avez trois types, les PBAT, les PBS et les PMAT. Alors, ce sont des noms plus ou moins compliqués. PBAT qui est très fréquemment utilisé, c'est un polybutylène à dipeptéréphtalate, et ces produits-là sont issus du pétrole, biodégradables mais issus du pétrole. Une troisième méthode de classement, c'est celle qui tient compte de l'origine principale du matériau biodégradable. Vous avez les matériaux biodégradables d'origine animale, comme les chitines et les gélatines, et les matériaux biodégradables d'origine végétale, tels que les alginates. Et puis alors, j'aimerais bien pouvoir lire. Oui, il y a les amidons, l'agar agar, et puis en dessous, les acides polylactiques, les amidons et dérivés, donc qui viennent du maïs, de la pomme de terre, du pois, du blé, et puis l'acide polylactique qui provient de la transformation des amidons de maïs, des sucres de betterave, via des actions bactériennes et chimiques. Et puis vous avez les polymères biodégradables pétroliers qui eux sont en même temps d'origine animale et végétale et qui sont également utilisés comme matériaux biodégradables. Enfin, une quatrième manière de classer les matériaux est une manière, c'est un classement selon la composition chimique. Alors, vous avez des polysaccharides, d'abord, une classe très importante, mais avec un seul type de matériau à retenir, ce sont les amidons. Les polyesters aliphatiques, comme là aussi un matériau à retenir très important, c'est le PLA. Il en existe d'autres, évidemment, mais en ce qui vous concerne, c'est surtout celui-là qui doit être retenu. Les polyesters aliphatiques aromatiques, comme les PBS, qui sont utilisés notamment par dans les pays d'Asie beaucoup, hein, les Japonais, polybutylène succinate. Les copolyesters, comme le PBAT, c'est l'Ecoflex. L'Ecoflex est un produit qui a été mis au point au départ par BASF, qui est beaucoup utilisé dans les films biodégradables. Et les PMAT, qui sont également utilisés, sont un produit qui est très proche du PBAT. Ensuite, vous avez les copolyestéramides, relativement peu utilisés. Les protéines, les oléiques et les vinyliques, où là aussi, on a un certain nombre de produits, mais relativement peu utilisés pour la fabrication de films biodégradables. Comment, pour savoir qui fait quoi en matière de matériaux biodégradables, j'ai pris un exemple. Vous avez ici les intervenants. Vous avez d'abord le chimiste. Le chimiste, c'est la personne qui conçoit le polymère. Et j'ai pris comme exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, l'université d'Aix-la-Chapelle. Voilà, ce sont des gens qui ont conçu un certain type de polymère. Vous avez le compounder. Le compounder, c'est celui qui va travailler en relation étroite avec les chimistes et qui va industrialiser les process et fabriquer les différents grades de granulés de base. C'est par exemple F-Cour en Allemagne. Vous avez les extrudeurs, les thermoformeurs, les injecteurs. Ceux-là, ce sont des diverses sociétés qui achètent le compound, qui vont fabriquer le matériau. C'est par exemple à partir des produits qui sont fabriqués par F-Cour, Hurlemans Plastic, mais qui lui est situé en Hollande. Vous avez les grossistes qui achètent les produits finis aux extrudeurs, thermoformeurs et injecteurs. Il y a de très nombreuses sociétés, comme par exemple des coopératives. Puis ensuite, vous avez les détaillants qui achètent les produits finis aux grossistes. Là aussi, vous avez un très grand nombre de sociétés. Et vous avez en fait finalement l'utilisateur final qui achète directement aux grossistes ou aux détaillants. Alors pourquoi ce commentaire ? C'est parce que il peut y avoir à partir de là un très grand nombre de confusions qui entrent en ligne de compte. Par exemple, le chimiste donne une référence chiffrée au polymère qu'il a créé. C'est un premier nom. Le compounder donne des noms divers au grade de compound qu'il produit. C'est encore d'autres noms. Les extrudeurs, thermoformeurs, injecteurs donnent des noms de référence aux produits qu'ils commercialisent. Les grossistes eux-mêmes et les détaillants donnent des noms commerciaux aux produits qu'ils vendent aux utilisateurs. Et évidemment, toutes ces pratiques sont à la source de confusion extrêmement importante pour l'utilisateur final qui finalement il ne sait plus ce qu'il achète. Alors, quel type de biodégradable pour l'agriculture ? Dans la grande majorité des cas, les plastiques biodégradables sont toujours des mélanges qui font appel peu ou prou à de l'amidon, modifié ou non, et qui sont utilisés pour le paillage des cultures en remplacement des polyéthylènes classiques. Les biodégradables qui sont les plus fréquents, c'est d'une part les mélanges entre PBAT et amidon, comme par exemple des produits de chez Novamont, qui est décliné sous la marque Matterb en grades différents. Des mélanges entre PBAT, PMAT, aussi appelé Istar Bio, initialement fabriqué par Eastman Chemical, et d'amidon, là aussi Novamont fabrique des produits de ce type-là. Ou bien des mélanges entre PBAT et des farines de maïs, comme par exemple l'Imagrin, qui fabrique ce type de produit sous le nom de Biolis, en divers grades, là aussi. Et alors, des mélanges entre PBAT et PLA. C'est le cas de F-Cour en Allemagne, qui commercialise sous le nom de BioPL. En fait, c'est Hurlemans Plastik qui commercialise sous le nom de BioPL. Donc, vous voyez que ça, ce sont les principaux produits que l'on retrouve actuellement sur le commerce des films biodégradables. On trouve aussi, moins fréquemment, du PBAT quasi pur, des PBS, qui sont des polybutylènes succinates, avec de chez Showa, par exemple, des mélanges PBS et amidon, surtout dans les régions asiatiques, des films de paillage papier, par exemple Alstom, qui en fabrique, mais qui a plusieurs gros désavantages, notamment un effet thermique qui est nul, voire négatif par rapport à des témoins, un effet barrière nul à l'eau, voire dans certains cas accélérant l'évaporation de l'eau du sol, très lourd à manipuler et de faible résistance à la déchirure. Donc en général, ne sont pas utilisés ou mis sur le côté. D'ailleurs, ça ne se développe pas. Ce sont des produits qui ne se sont pas développés. Dans quelques cas particuliers, pour la fabrication de ficelles, de clips, de barquettes, etc., on utilise du PLA, l'acide polylactique. Et le PLA est intéressant parce que c'est un produit qui ne se biodégrade très mal à des températures ordinaires, voire pas du tout dans certains cas, et qui ne se biodégrade qu'à condition qu'il ait subi un certain nombre de réactions d'hydrolyse au départ à haute température, c'est-à-dire en compostage. Donc il faut d'abord atteindre des températures de l'ordre de 58-60 degrés pendant un certain temps pour que la biodégradation soit enclenchée. On utilise du materbi dans des grades particuliers, ainsi que des celluloses, des dérivés comme la viscose, etc. Voilà, ça c'est pour quelques cas particuliers. Alors il y a quelques points importants à retenir en matière de film. D'une part, l'effet thermique des films de paillage biodégradable est quasiment identique à celui que l'on obtient avec les polyéthylènes classiques. Alors, l'effet thermique, c'est quoi ? C'est environ, sous nos climats, des températures de l'ordre de 3 à 4 degrés supérieures à un témoin sans plastique et avec une température qui est prise à 10 cm de profondeur dans les sols. L'effet thermique des films de pH biodégradable n'est quasiment pas influencé par son épaisseur. Donc que vous ayez un film de péage de 18 microns, de 14 microns ou de 25 ou 30 microns, l'effet thermique est quasiment identique, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, le film noir est plus adapté car il empêche en même temps la croissance des adventices. On vous en a parlé. L'optimum d'épaisseur. Alors évidemment, on a essayé de voir ça. L'optimum d'épaisseur semble être situé aux alentours de 18 microns, mais pour des raisons de coût, les films biodégradables coûtent très cher, on tend actuellement à diminuer ces épaisseurs, aller vers 14, voire 12 microns, voire dans certains cas encore moins. L'effet barrière à la vapeur d'eau pour les films biodégradables est nettement moins bon, enfin nettement, il est moins bon que les polyéthylènes classiques. Quand vous mettez un polyéthylène classique sur le sol, le film est parfaitement étanche, l'eau ne s'évapore pas au travers du film, mais vous n'avez pas d'échange gazeux non plus, ou très peu d'échange gazeux entre le sol et l'extérieur. Avec les films biodégradables, la vapeur d'eau passe assez facilement à travers et les sols se dessèchent plus vite. Il faut donc gérer ce phénomène-là et vérifier si vous ne devez pas modifier vos techniques d'irrigation lorsqu'il y a irrigation nécessaire. Le coût des plastiques biodégradables varie selon le produit, de environ 3,50 € par kilo, je parle en hors-taxe, jusqu'à 5,5 € par kilo. Alors, vous avez des prix en dollars, mais ce sont des dollars canadiens. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence à ce sujet-là au Canada, donc ne tenez pas compte de ça. Contre 1,50 € par kilo pour un polyéthylène classique recyclé, jusqu'à 2,50 € par kilo pour un polyéthylène de première extrusion. Donc ça veut dire que les prix des biodégradables au kilo sont entre 2,5 et 3 fois plus cher que le polyéthylène classique. La densité du polyéthylène classique est de l'ordre de 0,93, alors que pour les biodégradables, les densités sont situées entre 1,25 et 1,33. Alors, ça a une importance très grande parce que sur une même surface, pour une même épaisseur, comme la densité est beaucoup plus élevée pour les plastiques biodégradables, le coût à l'unité de surface est multiplié par la densité, évidemment, hein, puisque là, je parlais d'un prix au kilo. Alors, on a intérêt, c'est la raison pour laquelle on a intérêt à avoir les épaisseurs les plus fines possibles pour avoir moins de poids à l'unité de surface et donc à moins de prix, à moins de coût à l'unité de surface. Alors globalement, les rendements agronomiques obtenus avec des films biodégradables sont identiques à ceux obtenus avec des polyéthylènes classiques. Alors en ce qui concerne, vous avez dit biodégradable. Non, il y a des définitions de la biodégradabilité selon les, selon les auteurs, selon l'OCDE, etc. Selon la 52001, c'est la norme qui doit être appliquée pour vérifier la biodégradabilité de vos matériaux lorsqu'il s'agit de films qui vont être enfouis dans les sols. Eh bien, la biodégradation, on dit que la biodégradation d'un matériau est un ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui sont concomitants ou successifs d'ailleurs, et qui aboutissent sans aucune exception à la bioassimilation du matériau. Alors, la bioassimilation, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement le fait que la microfaune et la microflore du sol finissent par utiliser le matériau qui a été mis au sol comme nutriment. Voilà. Alors, pareil, dit selon la 52001, la bioassimilation d'un matériau est un phénomène par lequel la microfaune ou la microflore, constituant un élément entier de la biomasse, utilise un matériau comme nutriment, c'est ce que je viens de dire. Comment se traduit la bioassimilation ? D'une part, on a une biomasse qui est réorganisée, non pas qui augmente, mais qui est réorganisée. D'autre part, ça se traduit aussi par un dégagement de gaz carbonique ou de méthane si on travaille en milieu anaérobie, ainsi que la production de quelques autres molécules organiques ou minérales, selon l'étape de la biodégradation. Une émission de vapeur d'eau et un dégagement d'énergie sous forme de chaleur. Donc, en gros, on peut dire que ces matériaux-là, une fois qu'ils sont biodégradés, il va rester essentiellement de l'eau et du gaz carbonique, un tout petit peu de matière minérale qui constitue le matériau, qui se trouve à l'intérieur du matériau au moment de sa fabrication. Comment se mesure la bioassimilation ? Il y a trois tests qui peuvent être faits essentiellement. Un test qui dure 6 mois, qui se fait en milieu aqueux, à 38 degrés, c'est le test de Sturm. Donc ça consiste tout simplement à avoir une solution d'eau dans laquelle on ajoute des bactéries activées qui ont été prélevées dans une station d'épuration on met là-dedans aussi l'échantillon qui doit être analysé, on fait monter la température à 38 degrés, les bactéries travaillent, vont se nourrir de l'échantillon qui a été mis en contact avec ces bactéries, il va y avoir du gaz carbonique qui va être dégagé, et on va mesurer la quantité de gaz carbonique qui va dégager au cours du temps. Un deuxième test qui peut être effectué, c'est un test de 6 mois en compost à 58 degrés Celsius. Et enfin, un test de 12 mois en sol réel à 28 degrés Celsius. Donc dans tous les cas, on détermine la proportion de gaz carbonique dégagé durant le test par rapport à la quantité théorique qui peut être dégagée. Quand vous mettez un échantillon en incubation, vous devez savoir à l'origine quelle est la quantité de carbone organique qui est présent à l'intérieur de cet échantillon, et vous pouvez en déduire la quantité théorique de gaz carbonique qui pourrait être dégagée. Alors ce que l'on va mesurer, c'est la proportion qui va exister entre la quantité qui sera effectivement dégagée et celle qui devrait être théoriquement dégagée. Et ceci par rapport à un témoin qui est en général la cellulose. Alors voilà un exemple de courbe de biodégradation. Vous avez en bleu la courbe, c'est une courbe qui est faite à 58 degrés Celsius, voilà, qui est faite sur compost. Et vous avez en bleu la courbe, une courbe de biodégradation de la cellulose, et en rouge la courbe de biodégradation d'un produit. Qui est un paillage également qui peut être utilisé en pépinière ou en foresterie, qui s'appelle le feutramate, et où on constate qu'au départ, la biodégradation est plus lente que la cellulose, mais très rapidement, elle le dépasse. Et ça se fait en un certain nombre de jours. Ici, vous voyez, on arrive à, pour le produit à quasiment 95% de biodégradation au bout de 60 jours, hein, alors que la cellulose est à 90% à peu près. Alors, c'est un exemple de courbe de biodégradation. Alors ce que l'on fait pour déterminer quel est le taux de biodégradation, le taux de biodégradation est mesuré en relatif et en absolu, c'est-à-dire de manière absolue, la biodégradation de l'échantillon qui est du feutramate est de l'ordre de 95%. En relatif, il est de plus de 100% par rapport à la cellulose, puisque la cellulose est inférieure. Alors, il y a deux, trois choses où il faut faire extrêmement attention. Selon le type de test appliqué, la réponse obtenue pour un même matériau peut être déclarée dans un cas bioassimilable, dans un autre cas non bioassimilable, voire écotoxique. Je vous donne le cas de l'acide polylactique. Vous faites un test avec de l'acide polylactique à 28 degrés sur un sol réel. Vous allez conclure que le produit n'est pas biodégradable. Si vous faites le même test à 58 degrés Celsius sur un compost, vous allez constater qu'au bout de 45 jours, il ne reste plus rien. Donc dans un cas, ça peut être déclaré bioassimilable, dans l'autre cas, non. Alors le taux réel de bioassimilation peut être très différent s'il est exprimé en valeur relative par rapport à la quantité théorique de CO2 ou en valeur absolue. Je vous donne un exemple. Supposons que l'on fasse un test avec de la cellulose. La cellulose atteint un taux de biodégradation, je dis n'importe quoi, 50% par exemple. Voilà. Et le matériau va atteindre 40% de biodégradation. En valeur absolue, le matériau ne s'est dégradé que à 40%, 60% du matériau n'a pas été biodégradé. Par contre, si on l'exprime en valeur relative, on a la valeur 40 sur 50, c'est 80%. Donc il faut faire très attention sur ce qui est exprimé, sur la manière dont sont données les publicités, les commentaires, vérifier s'il s'agit d'une valeur absolue, d'une valeur relative, parce que c'est extrêmement différent. Hein. La tentation et les risques, évidemment, la tentation est très grande pour les industriels et les revendeurs de ne présenter que les courbes respirométriques qui leur sont les plus favorables. Donc là aussi, il faut regarder ça de près. Pour les utilisateurs, les risques d'incompréhension, de confusion et de tromperie par omission sont très importants. Alors, comment éviter ce genre de problème ? Solution pour s'y retrouver de manière certaine. Faire confiance en Europe, en tout cas, à deux normes. Et pour vous, à une seule norme, en fait. D'une part, vous avez une norme qui s'appelle EN13432. Et d'autre part, vous avez une norme qui s'appelle NFU52001. La EN13432 est une norme qui vous permet d'affirmer que votre matériau est biodégradable par voie de compostage en milieu industriel. Point. C'est tout. La norme 52001, c'est une norme qui vous permet d'affirmer que votre matériau est biodégradable par voie d'enfouissement dans le sol à température ordinaire. Lorsque vous avez des matériaux qui sont 13432 et beaucoup de matériaux de paillage sont 13432, vous affirmez, ça n'a pas de signification pour vous parce que vos matériaux vont être enfouis dans le sol, sauf s'il s'agit d'emballage. Mais dans votre cas, les matériaux sont enfouis dans le sol. Donc affirmer quelqu'un, un revendeur qui viendrait et dit voilà, je vais vous donner un produit qui est formidable, il est biodégradable selon la EN13432. Ça n'a pas de signification, puisque ce n'est qu'une norme qui vous prouve que le matériau est biodégradable par voie de compostage et en milieu industriel, pas chez vous. Seule la norme 52001 actuellement peut vous prouver que le matériau est biodégradable par voie d'enfouissement. Il y a relativement peu de fabricants qui ont actuellement la norme 52001. Les fabricants principaux en Europe qui sont EFCOUR, Limagrain et Novamond n'ont pas forcément... EFCOUR a la norme pour son matériau, enfin il l'a fait faire. Novamond, Limagrain ne l'ont pas fait faire. Mais ce sont des produits qui passeront à 52001 s'ils doivent... Donc ce sont des industriels sérieux qui vous fabriquent des produits sérieux. Mais il y a d'autres produits qui peuvent venir de l'étranger et qui, eux, vous affirment qu'il s'agit de produits biodégradables selon 13432 et qui ne sont absolument pas, qui ne passeraient pas du tout la norme 52001. Norme 52001 qui est d'ailleurs beaucoup plus sévère que la norme 13432. Alors les tests requis par la EN13432, voilà, ils sont définis là. Il y a trois tests en fait. Il y a un test de biodégradation qui lui est un test, c'est un test respirométrique où l'on prend l'échantillon, on le met en contact avec un compost à 58 degrés, on vérifie quel type de biodégradation on obtient. La vitesse est le taux que l'on obtient. Ça dure 6 mois. Ça se passe à 58 degrés. C'est le test de biodégradation. Alors, il y a un deuxième test qui doit être effectué. C'est un test de désintégration où on prend le matériau, on le met en contact avec un compost pendant au moins 12 semaines. Ensuite, on retire le matériau, on le passe au tamis de 2 mm et il faut que le matériau passe au travers du tamis. Et ensuite, vous avez un test d'écotoxicité, qui est un test d'écotoxicité relativement simple, où il s'agit tout simplement de faire germer des monocotylés, des dicotylés sur le terreau qui a été obtenu précédemment pour le test de désintégration, et de vérifier si l'émergence des semences et le rendement que l'on obtient est équivalent au témoin qui ne contient pas de plastique biodégradable. Ça, c'est ce qui est fait pour la 13432. Et vous voyez que ce n'est pas du tout adapté à de l'enfouissement dans le sol. Ensuite, vous avez les tests qui sont requis par la 52001. Ah oui, c'est ce que j'ai oublié de dire. C'est que il faut qu'il y ait aussi un certain nombre de requis préalables, comme par exemple des éléments traces, des métaux lourds, etc., ne doivent pas être présents au-delà d'une certaine quantité à l'intérieur du matériau. Pour la 52001, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Là, la teneur minimum en matière solide volatile est de 80% contre 50% pour la 13432. C'est pareil, il faut que la teneur maximale définie en métaux lourds et autres types de métaux ne dépasse pas la norme, de même qu'un flux maxima annuel. Les produits doivent être exempts de carbamate, d'amine aromatique, d'orthophtalate, notamment les DEHP. Répondre à des teneurs maximales définies en PCB-HAP, ainsi qu'à des flux maxima annuels. Être biodégradable à hauteur d'au moins 70% de la substance de référence pour les tests à 28 degrés et au moins 90% de la substance de référence pour les essais à 58 degrés. Vous voyez ici, il y a deux tests de biodégradation contre un pour la 13432. Donc on est obligé de faire, on peut choisir entre trois tests pour la 52001, soit le test en sol réel, le test de Sturm en milieu liquide et le test sur compost. Généralement, c'est le test sur compost et le test en sol réel qui sont utilisés. Et la réponse doit être, dans un cas, 70% de la substance de référence, et dans l'autre, 90% de la substance de référence. Et ensuite, vous avez un test d'écotoxicité, qui lui aussi est beaucoup plus sévère, où il s'agit de mesurer l'effet sur la croissance des algues d'eau douce, des vers de terre, et sur l'émergence et la croissance des végétaux, deux espèces, monocotylées, dicotylées, sur des mélanges entre un sol, le sol, et les matériaux biodégradables, amenés à 100 fois la concentration initiale que l'on pourrait trouver sur un terrain. Donc si par exemple on va mélanger le sol avec 100 fois la dose que l'on applique normalement sur un sol. Donc vous voyez, c'est un test beaucoup plus sévère. Les questions particulières. Les labels sont-ils importants? Le label ou les marques de conformité? Alors, les marques de conformité, vous savez, la 13432 et la 52001 ne sont pas des normes d'application obligatoires. Il faut le savoir, ça. Vous avez donc trois possibilités à votre disposition pour affirmer l'adéquation de votre matériau à l'une des deux normes, que ce soit la 13432 ou la 52001. Première chose, vous pouvez, en tant que producteur, vous pouvez déclarer ex cathedra, mon produit est biodégradable, selon 52001 ou 13432. Personne ne peut vous empêcher de faire ça. Mais si quelqu'un arrive à prouver que votre produit n'est pas biodégradable, vous allez avoir affaire à la répression des fraudes. La deuxième solution, c'est de faire appel à un laboratoire extérieur qui va faire vos analyses, qui va dire, voilà, on a fait les analyses selon la 13432 et la 52001, et ma foi, ça répond, et nous considérons que votre produit est en adéquation avec les deux normes. Et puis, vous avez la troisième possibilité, c'est de passer par un organisme qui va vous fournir une marque de conformité. Une marque de conformité, c'est la possibilité d'utiliser un petit logo quelconque, une petite fleur, que sais-je encore, enfin, ça fleurit actuellement un peu partout dans le monde. Et vous avez en Europe, vous en avez deux essentiellement qui vous donnent des marques de conformité. C'est Vinsot en Belgique qui vous donne la marque de conformité OK Compost label. Et la Dinsertco en Allemagne, qui est une marque de conformité totalement équivalente, et qui vous permet d'apposer soit le logo de Dinsertco, soit le logo d'AIB Vinsot sur les produits. Alors, ce sont des marques de conformité sérieuses, et c'est vrai que lorsqu'ils sont apposés sur les produits, vous pouvez faire confiance. Aucun problème de ce côté-là. Le seul problème, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas de marque de conformité pour la 52001. C'est toujours la 13432 qui apparaît, et ça, ce n'est pas adapté à votre domaine d'application. Il est clair, évidemment, que ces logos, quelconques soient-ils, n'ont d'intérêt que la reconnaissance que le public veut bien leur donner. Des logos, il y en a, j'ai pas fait le compte exactement, mais il doit y en avoir au moins une bonne cinquantaine de par le monde actuellement. Des logos de conformité à telle ou telle autre norme. Le problème avec ce type de logo, c'est que l'obtention de marques de conformité est en général pour le fabricant quelque chose de très cher. Parce que non seulement il faut payer les laboratoires qui sont en relation avec ceux qui fournissent les marques de conformité et qui sont surveillés par par ces personnes, par ces intermédiaires, mais d'autre part, vous avez aussi à payer chaque année une quote-part, en général entre 1000 et 1500 euros, qui vous permet de remettre chaque année le logo sur votre produit. Ce qui fait qu'évidemment, le tarif du produit augmente et c'est finalement le producteur qui le paye. L'acheteur qui le paye. Il y a encore une autre chose qui est extrêmement importante, c'est au sujet des polyéthylènes additivés. Les polyéthylènes additivés sont des polyéthylènes classiques, comme ceux que vous pouvez utiliser actuellement, et dans lesquels on a ajouté des additifs qui vont accélérer l'oxydation du matériau, pour le rendre beaucoup plus facilement dégradable dans le temps. En ajoutant ces additifs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une réaction chimique, à condition qu'il y ait suffisamment d'oxygène dans l'air, une réaction chimique qui va se traduire par une diminution assez drastique des masses moléculaires. On va passer de 150 000 ou 200 000 daltons à 1000 daltons sur un temps qui est relativement court. Et ça va se traduire par une perte de la qualité du plastique et une fragmentation sous la forme de tout petits fragments qui vont devenir très progressivement invisibles à l'œil nu. Et on aura l'impression que le produit est totalement biodégradé. Le produit n'est pas biodégradé. Le temps nécessaire pour la biodégradation effective de ces produits est extrêmement long. Et ça dépend des circonstances, mais ça peut mettre entre 5 ans et 50 ans pour avoir une biodégradation effective et pour que le produit soit transformé en gaz carbonique et en eau, plus quelques résidus. Donc c'est très long. C'est évidemment beaucoup plus court qu'un polyéthylène classique qui, lui, va mettre entre 400 et 600 ans pour se biodégrader. Mais ce n'est pas acceptable environnementalement parlant. Par ailleurs, les microparticules qui sont relarguées dans la nature pendant toute cette phase de dégradation puis de biodégradation qui est relativement lente, ces microparticules peuvent parfaitement entrer dans la chaîne alimentaire parce qu'elles vont aller se coller sur les racines, sur le feuillage qui va être consommé d'une manière ou d'une autre, et ça va se retrouver lorsqu'il s'agit de légumes, par exemple. Mais on pourrait parler de produits agricoles. Lorsqu'il s'agit de légumes, ça va finir par se retrouver dans votre assiette et vous allez manger du plastique, plus les additifs qu'il y a dedans. Donc, faut faire très très attention. D'ailleurs, ces produits, lorsqu'ils subissent les tests de la 13432 aussi bien que de la 5201, ne passent absolument pas les tests de biodégradation et ne sont absolument pas conformes à ces normes. Donc, faire très attention parce que le problème, c'est que les gens qui vendent ce type de produits vous disent que les produits sont oxo, et puis ils ajoutent biodégradables. Et ils vous expliquent que lorsque les masses moléculaires sont devenues suffisamment petites, eh bien, ma foi, elles peuvent être consommées par les bactéries, par la microflore du sol, etc. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, méfiance à ce niveau-là. Alors, voilà par exemple quelques cas de pollution par des plastiques dits dégradables. Ici, en haut à gauche, là, vous avez une pollution par des plastiques. Ça se passe en Bretagne. Et ce sont des polyéthylènes tels qu'on les vendait il y a 10-15 ans encore. Ce sont des polyéthylènes qui étaient mélangés avec de l'amidon, qui étaient utilisés notamment sur des cultures de maïs. Et ensuite, enfouis dans le sol, on disait les matériaux sont biodégradables. Évidemment, la seule chose qui avait de biodégradable là-dedans, c'était l'amidon. Le polyéthylène n'y était pas du tout. Et ce sont des photos encore relativement récentes. Et là, ça fait 20 ans que les terres sont dans cet état-là et sont complètement polluées par des enfouissements de plastique dans les sols. Les autres photos, les trois autres photos, sont en fait des photos de polyéthylène additivé, où là, vous voyez les petites parties blanches qui sont à la surface du sol. Ce sont les particules de ce plastique qui restent d'une année à l'autre sur les terres. Et puis ici, vous avez une photo en bas à gauche, une photo prise au microscope électronique sur un épiderme de plante. Il s'agit de pâtissons, je crois, ici. Oui. Où on voit des particules de plastique qui sont coincées sur l'épiderme. On peut avoir des particules encore beaucoup plus petites qui sont coincées comme ça dans les poils des plantes, voire jusqu'à l'intérieur des stomates. Alors évidemment, ça ne part pas par lavage et vous le mangez, ça c'est clair. Hein. C'est clair. Alors, pour se résumer, les principaux types de matériaux utilisés en agriculture. D'une part, vous avez le polyéthylène, non biodégradable. Le polyéthylène plus de l'amidon, pas biodégradable. Les polyéthylènes plus des additifs de peroxydation. Donc ce sont les oxos biodégradables, pas biodégradables. Les polypropylènes, plus ou moins additivés aussi, pas biodégradables. Chlorure de polyvinyle, pas biodégradable non plus. Et les deux types de matériaux qui sont effectivement biodégradables et utilisés en agriculture sont d'une part les copolyesters aliphatiques, aromatiques, et les copolyesters aliphatiques aromatiques qui sont additivés d'amidon, modifiés ou non. Actuellement, c'est les seuls qui sont effectivement biodégradables et qui répondent pour la plupart d'entre eux à la norme 52001, même si les industriels ne peuvent pas vous montrer qu'ils ont fait subir les tests en question. Mais je peux vous garantir que ça passe la norme pour la plupart d'entre eux. Alors, si vous avez des questions à poser, ben, ma foi, vous allez directement sur le site serbio.fr ou bien vous m'envoyez un email et on vous répond.